Émile Souvestre, La fileuse, le gobelino. Notre diligence venait de s'arrêter devant la maison de relais et le postillon frappait avec le manche de son fouet à la porte de l'écurie où tout semblait dormir. « Eh bien, c'est comme ça que le Normand nous attend » criait-il. « Et grand Saint-Lâche, comptes-tu nous laisser geler ici ?» La demande était d'autant plus permise qu'à notre départ de Paris, le thermomètre marquait 7 degrés au-dessous de zéro, et qu'il avait dû baisser encore depuis. La terre était couverte de neige, un vent mêlé de verglas fouettait notre voiture, où le froid se faisait sentir d'autant plus cruellement que nous n'étions que deux voyageurs. Arraché à ma somnolence par les cris du postillon, j'abaissai avec précaution une des glaces rendue opaque par les cristallisations de la neige, et je hasardai ma tête hors de la portière. « Où sommes-nous, postillon ?» demandai-je. « À trois sereux, monsieur, » répondit-il. « Et combien de lieues encore jusqu'à Boulogne ?» Une espèce de grognement qui partit du fond de la diligence m'empêcha d'entendre la réponse. C'était mon compagnon de route, que l'air piquant du dehors venait de réveiller en sursaut. « Eh bien !» s'écria-t-il tout à coup avec un accent provençal, des mieux timbrés. « Qui donc court là ? Dieu me donne, monsieur, avez-vous l'intention de vous chauffer au clair de lune ?» Je relevai la vitre en m'excusant. Le provençal frissonna de tout son corps. « Quel temps !» reprit-il. « Autant vaudrait une campagne de Russie. Et pensez que dans mon pays, il se promène maintenant en veste de Nankin, avec une rose dans la boutonnière. Vous croyez avoir ici un soleil, vous autres ? Ce n'est pas même une lanterne. Pour connaître la ville, il faut habiter le midi. Il faut voir ses vignes, sa chasse aux hortelans, ses fabriques de savon, ses femmes. Ah, quelle contrée des dieux, monsieur ! Ainsi, nous avons à Marseille un antiquaire qui a prouvé que le pommier du paradis terrestre devait être planté entre la Camargue et Tarascon. Je fis observer que l'on pouvait s'étonner dans ce cas qu'il n'y eût laissé aucune repousse. « Eh, que voulez-vous ? » dit plaisamment mon compagnon. « Adam n'aura point su qu'il fallait garder les pépins. » Je ne pus m'empêcher de sourire. La prétention de l'antiquaire marseillais n'avait rien du reste qui dût surprendre. Un ami de la tour d'Auvergne, le brigand, n'avait-il pas réclamé le même honneur pour sa province, en concluant des noms mêmes de nos premiers parents, que das le paradis reste on parlait bas breton. Un autre savant, Celtoman, avait placé l'Éden dans le département de l'Yonne, en se fondant sur le nom d'une des villes, Avallon, qui en celtogomérite signifie « pomme ». Plaisante imagination que nous pouvons railler, mais qui semble l'expression naïve de nos plus intimes instincts. Qui de nous, en effet, ne trouve au lieu où il est né un charme mystérieux qui les distingue de tous les autres ? En y respirant ces restes de parfums qui ne s'exhalent point ailleurs, comment ne pas croire que là était autrefois le séjour particulier de la paix, de l'innocence et de la joie ? Chacun de nous, hélas, a derrière lui un paradis terrestre d'où il a été chassé, comme notre premier père, par ce triste archange auquel les hommes ont donné le nom d'expérience. Ces réflexions qui traversaient lentement mon cerveau engourdi m'avaient fait oublier mon compagnon de route, qui continuait son dithyrambe provençal. Il y mettait naturellement ce beau désordre que Boileau signale comme un effet de l'art, car l'improvisation méridionale a de continuels changements de niveau. Ce n'est pas un fleuve, ce sont des cascades. Ajoutez que les idées semblent avoir de l'accent comme la voix. Elles vous rappellent toujours l'histoire du perruquier de Sterne, qui pour affirmer qu'une boucle de cheveux ne se défriserait point, s'écriait qu'on pouvait la tromper dans le grand océan. Mais, sous cette enflure bruyante, il y a quelquefois l'original ou le grandiose, presque toujours la couleur et le mouvement. J'appris bientôt, sans avoir eu l'embarras de faire une seule question, que mon compagnon de voyage était un de ces missionnaires du commerce qui ont réalisé le symbole du mercure volant et court une trousse d'échantillons à la main à la conquête du monde. Pour le moment, le Provençal se bornait à la conquête de la France septentrionale, où il s'occupait, selon son expression, d'écouler des vins et des huiles. Je sus par sa conversation qu'il avait parcouru pendant 10 ans les moindres villages de la Provence, du Languedoc, du Dauphiné et des Pays basques. Mon voyageur était dans ces esprits ouverts et actifs, jamais à court d'expédients, et qui, sachant le fond de la vie comme Figaro savait le fond de la langue anglaise, se tire toujours d'embarras à force de bonne volonté. Ces incessantes pérégrinations l'avaient parfois rapproché d'hommes de savoir ou d'expérience, et il en avait retenu quelque chose. On sentait par instants que le morceau d'argile avait habité avec des roses. Après m'avoir parlé de son commerce, des troubadours, de la canebière, il fit un de ces soubresauts qu'il prenait pour des transitions et se mit à me raconter ce qui lui était arrivé la veille à Beaumont. Il y avait rencontré une douzaine de ces comédiens ambulants qui exploitent nos bourgades, sans cesse arrêtés par la faim et chassés par les dettes. Derniers bohémiens de la civilisation qui continuent au XIXe siècle le roman comique de Scarron, traitant la vie comme Scapin traitait son maître, avec force l'Alzie et coup de bâton. La troupe foraine avait annoncé Robert le Diable. Le public était réuni, les 5 musiciens amateurs attendaient à leur pupitre, et la duègne, préposée au bureau de location, venait de rejoindre ses camarades pour se transformer en nonne de Saint-Rosalie, lorsque les 2 huissiers étaient arrivés dans l'aune avec un jugement de saisie et de prise de corps. Le directeur, subitement averti, avait quitté le trou du soufflet en s'écriant comme un héros trop célèbre « Sauvons la caisse !» Il avait vivement attelé le fourgon et s'était enfui avec toute la troupe en costume Moyen-Âge, oubliant derrière lui le mémoire de l'aubergiste, mais emportant la recette. Ce départ précipité avait empêché mon compagnon de se lier plus intimement avec le jeune du gazon, jeune femme qu'il avait reconnue pour une de ses compatriotes. Le récit du voyageur émaillait de loin en loin de quelques-unes de ces exagérations provençales qui sont à la gasconnade ce que le poème épique est au fabliau, m'avait d'abord amusé. Mais insensiblement, la fatigue et le froid reprirent le dessus, et je cessais d'écouter. Bientôt, le méridional, vaincu par lui-même, s'embobola la tête dans son manteau, cacha ses pieds sous les coussins de la banquette et s'assoupit en grelottant. L'heure ordinaire du repos était également venue pour moi. Les habitudes sont des créanciers qu'on ne peut ajourner impunément. Endormi par la fatigue et réveillé par le froid, je restais flottant entre 2 influences contraires. La diligence avançait lentement, avec des intermittences, des haltes et des efforts qui exaspéraient ma gêne jusqu'à la souffrance. Je percevais vaguement, à travers le vitrage glacé, des buissons chargés de neige bordant la route, comme des fantômes accroupis, des arbres qui dressaient à chaque carrefour leurs rameaux moins semblables à des bras de gibet, de grandes friches auxquelles la neige, entrecoupée de bruyères encore vertes, donnait l'aspect d'un cimetière à l'heure où les morts viennent étendre leurs linceuls sur les tombes. Le tintement des clochettes de l'attelage, le bourdonnement de la voiture vide, et ébranlée par les cahots, les grincements des essieux fatigués, formaient je ne sais quelle harmonie pénible et monotone qui ajoutait à l'effet de ces lugubres images. Tout à coup, la voix du postillon s'éleva dans la nuit. Le chant de cet homme, que je ne voyais pas et qui semblait venir d'en haut, complétait, pour ainsi dire, mon hallucination. Il psalmodiait d'un accent plaintif et prolongé une de nos traditions villageoises, espèce de sagas inédite, dont chaque jour emporte un lambeau avec les vieilles mœurs et les vieilles crédulités. C'était l'histoire d'une de ces filles fées, condamnées à subir pendant certaines heures une métamorphose qui la laissait sans défense et sans pouvoir. La fable et l'air avaient bercé ma première enfance, et tous deux m'arrivaient à travers mon dernier sommeil, sans l'interrompre. C'était comme un lointain écho du passé, et ma mémoire achevait d'elle-même les mots et les modulations commencées. Celles qui vont au bois, c'est la fille et la mère, l'une s'en va chantant, l'autre se désespère. Qu'avez-vous à pleurer, Marguerite, ma chère? J'ai un grand tir au cœur qui me fait parler triste. Je suis fille sur jour et la nuit blanche biche. La chasse est après moi, par asier et par friche. Et de tous les chasseurs, le pie, la pie, ma mère, mamie, c'est mon frère Lion. Vite, allez qu'on lui dit qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain récit. Arrête-les, Lion, arrête, je t'en prie. Trois fois les a cornés, sans que pas un les oui. La quatrième fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la bête. Le dépouilleur a dit, il y a mes choses, mes fêtes. Elle a sein d'une fille et blond cheveux sur tête. Quand c'est vieux pour souper, que tout le monde vienne vite. Et surtout, dit Lyon, faut ma sœur Marguerite. Quand je la vois venir, ma vue est réjouie. Vous n'avez qu'à manger, tueur de pauvres filles. Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Le reste de mon corps devant les landiers gris. Le bras du dépouilleur est rouge jusqu'à l'aisaine. Dans le sang que ma mère avait mis dans nos veines, j'ai laissé boire mes chiens comme à l'eau les fontaines. Pour un malheur si fier, je ferai pénitence. Serai pendant 7 ans sans mettre chemise blanche, et j'aurai sous l'épine pour toi rien qu'une branche. Cette étrange poésie, en me reportant dans mes souvenirs d'enfance, me rendait peu à peu toutes les sensations. À mesure que le malaise et le sommeil obscurcissaient mes perceptions, le monde fantastique au milieu duquel mes premières années s'étaient écoulées et que l'expérience avait plus tard effacé, reparaissait comme ces milliers d'étoiles qui émergent dans l'espace à mesure que la nuit s'épaissit. Le chant du postillon avait cessé, et chaque fois que je rouvrais les yeux, il me semblait entrevoir dans la campagne des formes singulières, entendre d'inexplicables rumeurs. Toutes les visions dont l'imagination populaire peuple la nuit de Noël flottaient autour de moi, sans se dessiner nettement. Je me trouvais dans un état intermédiaire entre le sommeil et la veille, ne pouvant distinguer au juste le fait de la pensée. Tout à coup, une ombre intercepta la lueur qui filtrait à travers le vitrage de la portière. Une silhouette bizarre s'y dessina un instant, puis disparut avec un rire frêle et strident. J'avais redressé la tête, cherchant à me rendre compte de la réalité de cette apparition, quand elle se montra à l'autre portière et fit entendre le même éclat de rire. Mon compagnon, réveillé en sursaut, demanda ce qu'il y avait. La diligence venait de s'arrêter. Je baissai vivement la glace et j'avançai la tête au dehors. Le postillon était debout sur son marchepied, retenu de la main gauche à la courroie, le bras droit levé et tout le corps penché en avant, comme s'il eût suivi du regard quelque chose qui venait de disparaître dans la nuit. Je l'appelai. « L'avez-vous vu ? » s'écria-t-il en se retournant vers moi avec une expression de surprise et de terreur. « Qui cela ? Le Gubellino ! » Je dis ce que j'avais aperçu. « C'était lui !» répliqua le postillon. « J'avais toujours cru que les vieux se gaussaient de nous, mais à cette heure je l'ai vu. Il montait son cheval blanc, et quand il a passé, j'ai senti le frisson sous ma peau de brebis. Ce qui craint la froideur donc à se cacher cette nuit, car la laine gèlera entre la barbe et les lèvres. » Je demandai des détails sur le Gubellino et j'appris que ce nom était donné à un « fée » dont l'apparition servait de divertissement. On le voyait changer de forme selon ce qu'il avait à prédire. Il parcourait les campagnes à cheval sur une loutre de rivière pour annoncer des inondations, dans un chariot mortuaire, si quelque maladie menaçait le pays, à pied et la besace sur l'épaule, lorsqu'il prévoyait quelque grande famine. On avait même vu apparaître, pour prévenir des particuliers du sort qui les attendait. Un médecin d'Achille le trouva un jour à l'embarquement du chemin, vêtu de noir et une bêche sur l'épaule. « Et que fais-tu là, Gubelino ?» lui demanda-t-il. « J'ai voulu te voir encore une fois, » répondit le fée. « Mais me reste-t-il donc si peu de temps à vivre ?»« Oh, seulement ce qu'il m'en faudra pour te creuser une fosse !» Le médecin se mit à rire. Et au lieu de profiter de l'avertissement pour faire sa paix avec Dieu, il poussa son cheval en avant. Mais à une demi-heure là, comme il voulait passer le gué d'Herbouval, sa monture perdit pied et se noya avec le cavalier. Le postillon ajouta que nous allions arriver à un pont où le Gubelino tenait, disait-on, ses grandes soirées avec les fades et les lutins du pays. J'avais déjà trouvé sur la dive la fée du Pontango, étendant les linceuls qu'elle lavait chaque nuit, à Bayeux, la dame d'Aprigny, dansant devant la planchette destinée à traverser le ruisseau, sur toutes les rivières du Maine, de l'Anjou, de la Sainte-Onge, de l'Orléanais et du Berry, les Milioraines, les Blanches-Mains, les Fadettes ou les Demoiselles, gardant les moindres passages. Car une croyance commune à toutes nos provinces semble avoir mis sous la garde d'êtres merveilleux ces étroits défilés. Dans la croyance villageoise, les ponts, bâtis par la prière des saints ou par la puissance du démon, se rattachent toujours à quelque miraculeuse origine. On les retrouve comme moyen d'épreuve dans le conte populaire et comme symbole dans la légende. C'est sur un pont de beurre que le bon Jacques traverse la rivière de feu quand il va chercher pour sa mère l'herbe de tous les remèdes. Et les armes doivent passer 7 ponts, plus étroits que le tranchant d'une faux fraîchement émoulue, avant d'arriver au paradis. Il y a en effet, dans ces routes jetées sur les eaux, je ne sais quoi de hardi qui saisit l'imagination de ceux qui ignorent. C'est comme une victoire sur la création. En reliant l'un à l'autre des bords opposés, l'homme a l'air de défier le vide et l'espace, ses éternels ennemis de sa puissance bornée. Il accomplit une première conquête, qui semble en faire espérer une autre plus importante, et promettre ce grand pont dont, au dire de la tradition, l'arc-en-ciel n'est que l'ombre. Car les cieux et la terre sont aussi deux rives entre lesquelles coule le fleuve de nos misères, et que tous les efforts de notre imagination tendent à réunir. Puis quel lieu plus favorable au vertige que ces arches dressées au fond des vallées, parmi les saules que la lune revêt chaque nuit de suaire et auxquels la brise donne le mouvement? Comment passer sans émotion sur ces chemins suspendus et sonores sous lesquels glapissent les remous, tandis que les algues enroulent aux éperons de pierre leurs replis, semblables à des dragons aquatiques, et que l'on voit briller au loin les larges fleurs du nénuphar qui s'ouvrent sur les eaux comme les yeux de fantômes? Cependant, la route devenait de plus en plus difficile. Un vent froid qui s'était levé semblait justifier l'apparition du Gubelino. Bien que ferré à glace, notre attelage glissait sur le verglas, et le voile blanc qui enveloppait tout ne permettait point de distinguer la route. 2 ou 3 fois déjà, nos roues avaient rencontré les dépôts de cailloux amoncelés sur les accotements du chemin. La neige qui commençait à tomber, en aveuglant nos chevaux, rendit notre marche encore plus incertaine. Le postillon s'arrêta plusieurs fois, cherchant à reconnaître dans la nuit le pont jeté sur le terrain. Mais la neige, toujours plus épaisse, ne laissait voir ni les poteaux par lesquels il était annoncé, ni les arbres qui dessinaient le cours de la petite rivière. Les eaux, enchaînées par la glace, ne pouvaient non plus nous guider par leur rumeur. Nous avancions lentement et avec une sorte d'incertitude craintive. Enfin, notre postillon aperçut, à travers la nuée de neige, la double balustrade du pont. Il cessa de retenir les rênes, fouetta ses chevaux avec un sifflement d'encouragement, et la lourde diligence s'élança plus rapide. Mais presque au même instant, un choc terrible nous enleva des banquettes. Le postillon poussa un cri, et la voiture, fléchissant à gauche, versa sur le parapet. Une des grandes roues venait de se briser contre la seconde borne. Les premiers moments furent employés comme d'habitude, en malédiction et en reproche. Les voyageurs criaient après le conducteur. Le conducteur jurait contre le postillon, et le postillon battait ses chevaux. Mais la première colère passée, chacun prit son parti. On nous retira de notre prison roulante, désormais condamnée à l'immobilité. Examen fait, il se trouva que la roue était assez gravement endommagée pour exiger la présence d'un charron. Nous étions à environ une lieue de Saint-Omer-en-Chaussée et de Trois-Sereux. Nous pouvions attendre sur la route que l'ouvrier fût venu, et on décida que le conducteur irait chercher le charron sur l'un des chevaux, tandis que le postillon gagnerait l'abri le plus voisin avec les voyageurs et le reste de l'attelage. Nous vîmes en effet le premier enfourcher le porteur et disparaître au galop dans la nuit, tandis que le second tournait à droite, précédé des trois chevaux qui lui restaient, et nous faisait prendre un chemin de traverse au milieu des friches. Mon compagnon et moi, nous le suivions en frissonnant sous un vent glacé. Tout avait autour de nous un aspect funèbre. Nous marchions sans entendre le bruit de nos pas, enveloppés dans un linceul de neige qui se déroulait silencieusement à nos pieds. Par instants, nous traversions des taillis, dont les repousses blanchies par le givre se dressaient comme de gigantesques ossements et s'entrechoquaient avec un cliquetis lugubre. Mon excitation nerveuse, augmentée par le malaise, avait rendu mes sens plus subtils ou moins rebelles à l'hallucination. Deux ou trois fois, j'entendis distinctement dans l'atmosphère opaque qui nous entourait le rire bizarre qui m'avait déjà frappé au passage du Gubellino. Le postillon le reconnut sans doute également, car il s'arrêta, pencha la tête, puis reprit sa route en sifflant comme un homme qui cherche à se distraire ou à se rassurer. Ce que j'éprouvais n'était point de la crainte, mais une sorte de trouble composé de surprise, d'impatience et d'attente. Les impressions de l'enfance luttaient chez moi avec les opinions de l'âge mûr, et celles-ci semblaient céder à demi, moins par faiblesse que par curiosité. Nous arrivâmes à une clairière où le gazon, dépouillé de neige, formait une sorte de cercle dont le vert jaune se dessinait sur la blancheur des frimas. Notre guide nous montra ce cercle avec un sourire qui tenait le milieu entre la bravade et la peur. « C'est le rond des Fades, » nous dit-il en évitant de le traverser. « Ceux des environs assurent qu'elles viennent danser à la nouvelle lune avec les Farfadets et le Gubellino. Il y en a qui les ont vus de loin. » Mais il ne faut pas les déranger, vu que ce sont des mauvaises qui vous tordent un homme comme un hard de fagot. On dit aussi qu'elles enlèvent des enfants à la manière de celle de mon pays. Nous avons la bête à vête qui se cache au creux des fontaines et la mère Nick armée d'un bâton pour corriger les marmots. Sans parler des fées qui habitent les environs de Dieppe, repris-je. « Mais au haut de la grande côte, près du village de Puy, » interrompit le postillon, « c'est là que se tient la foire de la cité de Lîmes, où des dames blanches mettent en vente des herbes magiques, des rayons de soleil montés en bagues et des lueurs de lune roulées comme de la toile de Laval. Elle vous invite à acheter avec autant de mignonnerie que les dentelières de Caen. Et si vous approchez, elle vous lance dans la mer. J'ai eu un cousin qu'on a trouvé mort ainsi, au bas de la falaise. » Je fis remarquer à mon compagnon de voyage comment les mythologies morses, païennes et celtiques se trouvaient mêlées dans nos traditions populaires. Qu'étaient en effet toutes ces fées ravissant les nouveau-nés à leur mère et attirant les imprudents dans leurs pièges, sinon les sœurs des nymphes, que Théocrite appelle déesses redoutables aux habitants des campagnes, parce qu'elles enlèvent les enfants près des sources et qu'elles entraînent les jeunes bergers au fond de leurs grottes humides. Comment ne pas reconnaître dans ces rondes de nuit, auxquelles préside un génie, les danses des alliés scandinaves, conduits par le Strandhamn du fleuve? Enfin, ces dangereuses marchandes de talismans et de trésors, me rappelaient-elles point les barigènes gauloises, vendant aux matelots la richesse, la santé et les beaux jours? Vous pouvez ajouter, me dit le Provençal, que dans nos contrées, cette triple origine est encore plus visible. Chez nous, les blanquettes changent de forme à volonté et apaisent ou excitent les tempêtes, ainsi que le faisaient les prêtresses celtiques. Elles dansent au clair de lune, comme les vierges de l'Edda, en faisant croître à chaque pas une touffe de fenouil, et président au sort de chaque homme à la manière des destinées antiques. Toutes les maisons reçoivent leur visite dans la nuit qui précède le nouvel an. Avant de se coucher, chaque ménagère dresse une table dans une pièce écartée. Elle la couvre de sa nappe la plus fine et la plus blanche. Elle y dépose un pain de 3 livres, un couteau à manche blanc, un peu de vin, un fer et une bougie bénie, qu'elle allume avec une branche de lavande, empruntée au brandon de la Saint-Jean. Puis elle ferme la porte et se retire, comme on dit, à pas de renard. Et le dernier coup de minuit sonné, les blanquettes arrivent, brillantes et légères, comme des rayons de soleil. Chacune d'elles porte 2 enfants, l'un qu'elle tient sur le bras droit, est couronné de roses et chante comme l'orgue, c'est le bonheur. L'autre, assis sur le bras gauche, est couronné de joubarbe, arraché des toits, avant la floraison, et pleure des larmes plus grosses que des perles. C'est le malheur. Selon que les blanquettes sont contentes ou chagrines des préparatifs faits pour les recevoir, elles déposent un instant sur la table l'un ou l'autre enfant et décident ainsi du sort de la maison pendant toute l'année. Le lendemain, la famille vient vérifier le couvert des blanquettes. Si tout est en ordre, on en conclut qu'elles sont parties satisfaites. Le plus vieux prend le pain, le cron, et après l'avoir trempé dans le vin, le distribue aux assistants pour partager entre eux le bonheur. C'est alors seulement que l'on se souhaite bon an et joyeux paradis. Ainsi, à toutes les époques, dans toutes les croyances et chez toutes les races, l'homme a eu besoin de croire à des divinités qui décidaient de sa destinée. L'universelle protection du grand être n'a jamais pu suffire à sa faiblesse. Il lui a fallu des dieux secondaires qui fussent ses fondés de pouvoirs spéciaux, ou ses ennemis particuliers dans le monde invisible et auxquels il put reporter ses échecs et ses réussites. Le christianisme lui-même, qui agrandit et qui éleva si haut l'idée de la divinité, ne put échapper à cet éparpillement de la puissance surnaturelle. Au héros divinisé, il substitua ses bienheureux, aux génies domestiques, ses anges gardiens, aux déesses et vierges saintes, et surtout la mère du Christ. Le point de transition entre les deux théologonies reste à même visible dans l'histoire, car il y a un moment où toutes les deux coexistèrent et où le monde païen et le monde chrétien, personnifiés par leurs vivants symboles, luttèrent dans la tradition, comme dans le poème de Chateaubriand. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, la légende rapporte qu'au temps de Saint Grégoire, Rome était encore habitée par beaucoup de gentils qui conservaient chez eux les images de leurs faux dieux. Grégoire ordonna de transporter toutes ces idoles au Colisée où l'on s'exerçait au jeu de la palestre. Un jeune chrétien qui se préparait à y prendre part craignit de perdre son anneau et ne sachant où le déposer, il le passa au doigt d'une statue de la Vénus Aphrodite où il l'oublia. Le soir même, le simulacre impudique vint prendre place dans le lit nuptial entre lui et sa jeune épouse et se représenta de même toutes les nuits. Le chrétien s'adressa à la Vierge pour être délivré de cette obsession et fit sculpter une statue de la Mère douloureuse qui fut placée sur le dôme de Notre-Dame de la Rotonde. Mais la statue disparut le jour même de son érection et tout le peuple cherchait la cause de cette disparition lorsqu'on la vit revenir, tenant à la main l'anneau d'un jeune chrétien qui fut dès lors délivré de sa fiancée de marbre. Plus tard, lorsque les fables celtiques et scandinaves vinrent se mêler à la tradition, la trace antique se montra moins clairement. La Vénus Aphrodite fut transformée en une de ces fées sœurs aînées d'Armide, qui s'éprenaient les chevaliers les plus braves et les tenaient endormis à l'ombre d'une aubépine enchantée, ou qui, sous la forme de femmes merveilleusement belles, se présentaient aux seigneurs égarés dans les clairières et s'en faisaient aimer. Ce fut ainsi qu'un duc d'Aquitaine épousa une fade et donna naissance à la lignée maudite, d'où sortit cette Éléonore qui noya la France dans le sang. Le seigneur d'Argouges, Prébaïeux, étant un jour à la chasse, rencontra également 20 belles jeunes filles montées sur des chevaux couleur de lune, ayant à leur tête une femme encore plus belle qui paraissait leur reine. Il tomba si éperdument amoureux de cette femme qu'il l'emmena à son château et l'épousa. Ils jouirent longtemps d'un bonheur qui eût fait envie aux habitants du paradis. Mais l'inconnue était la fée qui préside à la vie. Et un jour, son mari ayant prononcé devant elle le mot de mort, elle poussa un cri et disparut, après avoir laissé sur la porte du château l'empreinte de sa main. Triste et poétique symbole de toutes les joies terrestres qu'un mot peut faire évanouir et qui ne laisse le plus souvent pour souvenir qu'un stigmate douloureux imprimé à l'entrée du cœur. L'histoire de la fée d'Argouges parut réjouir singulièrement mon compagnon. Tête Dieu, me dit-il, voilà un pays excellent pour le mariage. Trouver un miracle de douceur et de beauté au coin d'un bois, vivre avec elle pendant toute la lune de miel et n'avoir qu'un mot à prononcer pour s'en défaire avant le changement de quartier. Ah, je dois avouer que sur ce point, notre pays est moins favorisé. Il n'y a dans le Midi chance d'union surnaturelle qu'avec le Sorimonde. C'est un malin génie qui prend la forme d'une petite fille et se fait adopter par quelques familles à qui s'astapin a procuré plus d'oliviers et de vignes que de bon sens. La prétendue orpheline grandit en beauté. On en fait d'abord une Mayence pour la fête du printemps, puis elle devient la bouquetière de toutes les danses dans les grandes roumiriages. Enfin, le fils de la maison demande sa main. Et quand il s'est agenouillé sur son tablier, il croit avoir épousé les 7 vertus cardinales. Mais voilà que le lendemain, la jeune mariée coupe, comme on dit, toutes les fleurs du jardin. Elle devient seule maîtresse dans la maison et s'arrange si bien que rien ne réussit. Le pain qu'elle fait cuire pendant la semaine d'érogation est moisi toute l'année. Elle approche du feu les lacets à gibier qui ne peuvent plus prendre que des crapauds. Elle brûle du bois de sureau pour empêcher les poules de pondre et attire la malédiction sur le logis en détruisant les nids d'hirondelles. Et le mari a beau appeler le Paris pour faire aux quatre angles de la maison les conjurations qui éloignent le renard. Son poulailler est dévasté chaque nuit. Il suspend en vain dans ses étables des peilles roses, des picotos, des pierres de petite vérole. Ses moutons meurent l'un après l'autre. Enfin, la ruine arrive et avec elle les hommes de loi. Alors la belle mariée, qui a su se faire écrire un contrat par lequel on lui reconnaît une grosse dot, réclame ses droits, laisse vendre le reste et part en recommandant son mari à Sampluraldu.
Je reconnus dans le Sorimonde le Brownie des Écossais, génie non moins séduisant au besoin et tout aussi dangereux, dont on est à l'abri que la veille de la Toussaint, à cette fête de Hallowen, pendant laquelle les esprits intermédiaires ne peuvent nuire aux hommes. Mon compagnon m'apprit que les méridionaux n'avaient jamais cette trêve de Dieu, mais que la veille des rois, on sortait des maisons avec des clochettes et des vases d'airain pour que le bruit chassât les fantômes nocturnes. C'était encore ici un souvenir de la fête romaine des Lémuries. Tout en causant, nous avions continué à suivre l'espèce de route foraine par laquelle avait pris notre guide. Celui-ci marchait devant nous en sifflant l'air de la biche blanche qu'accompagnaient les grelots de l'attelage. Tout à coup, il se tut et nous l'avîmes s'arrêter. Lorsque nous l'eûmes rejoint, le provençal lui demanda ce qu'il y avait. N'entendez-vous pas? dit-il, en indiquant avec son fouet le côté droit du coteau que nous longions. Nous prêtâmes l'oreille, Des aboiements éloignés arrivèrent jusqu'à nous avec les rafales de neige. « On dirait une meute !» s'écria le Provençal. « Quel est le veneur damné qui pourrait battre l'estrade par un pareil temps et une pareille heure ?»« Je ne vois que le chasseur blanc !» répliqua le postillon avec un peu d'inquiétude. « Ils disent dans le pays qu'il choisit toujours la neige pour jumoyer. » J'avais bien cru l'entendre déjà, mais jamais ces chiens n'avaient donné autant de voix qu'aujourd'hui. Je demandai des explications sur le chasseur blanc, et j'appris alors que c'était le meneur de meutes fantastiques, appelé en Allemagne le Wildgrave de Falkenburg, en Écosse la Mechnihelkin, en Angleterre le Piqueur Noir, en Bretagne le Prince Artus, en Touraine le Prince Huron, à Fontainebleau le Grand Chasseur, et dans la Franche-Comté l'Homme Sauvage, dans le reste de la France Saint-Hubert ou le Veneur Caïn. Parbleu, m'écriai-je en riant, je serais curieux de voir une fois par moi-même la chasse des fantômes. Malheureusement, je n'entends rien, ni son de corps, ni taillot. Écoutez, interrompit le postillon à demi-voix, les aboiements des chiens étaient devenus plus distincts. Il s'y mêlait un battement sourd et régulier que je ne pus définir au premier instant, mais que je reconnus ensuite pour le galop d'un cheval sur la neige durcie. Nous nous trouvions alors dans un lieu bas et marécageux, au pied d'une colline dont la croupe arrondie se dessinait à peine dans la nuit. L'attelage, qui marchait librement devant nous, s'était arrêté et reniflait l'air avec inquiétude. Bientôt nous le vîmes s'effaroucher et retourner en arrière. Au même instant, une vague forme de cavalier, poursuivi par deux chiens, parut à mi-hauteur du coteau, passa comme emporté sur les flocons de neige et disparut presque aussitôt. Le Provençal et moi, nous nous regardâmes avec surprise. Quant à notre guide, il était collé contre le cou de l'un de ses chevaux qu'il venait de ressaisir, les mains crispées sur les guides, la figure effarée et les jambes vacillantes. « Quel diable de vision, cela ?» demanda mon compagnon. « Avez-vous reconnu le cavalier postillon ?»« Mais c'est toujours lui !» balbutia notre guide. « C'est le Gobelineau. Mais cette fois, il est en chasse !»« Par Dieu, j'aurais dû alors lui demander de son gibier !» dit le Provençal en riant. Le postillon secoua la tête. « Oh, peut-être bien qu'il vous en eût donné, » répliqua-t-il en débrouillant d'une main mal assurée les traits de son attelage. « Les gens du pays disent qu'on n'a qu'à crier. Pars à la venaison pour voir tomber un quartier de chair humaine. Et une fois que le chasseur vous l'a envoyé, il n'y a plus à s'en débarrasser. Qu'on aille le cacher sous la terre, dans un puits ou au fond de la mer, il retourne toujours de lui-même se suspendre à votre croc jusqu'au 9e jour où le veneur vient le reprendre. » Je reconnus la croyance recueillie par les frères Grimm en Allemagne et par Walter Scott dans le Royaume-Uni. Aucune superstition n'avait peut-être en Europe le même caractère de généralité parce que aucune n'avait eu la même raison d'être. C'était comme une protestation de la conscience populaire contre un des droits les plus oppressifs des siècles de servage. Si le patricien de Rome jetait autrefois les esclaves vivants ou l'emproie des viviers, le seigneur du Moyen-Âge avait livré aux daims et aux sangliers des forêts la subsistance même de ses paysans. Pendant 10 siècles, le laboureur avait vu ses moissons ravagées et ses troupeaux détruits, sans pouvoir les défendre. La subsistance de la bête fauve paraissait plus sacrée que celle de l'homme, sa vie plus précieuse. Cette vie était le plaisir du maître auquel nul ne pouvait toucher sous peine des galères ou de la corde. S'il était permis parfois aux manants de se mêler à la chasse du noble, ce n'était que comme supplément de meute. On l'appelait à défaut de chien pour abattre le gibier. Aussi, lorsqu'appuyé sur la charrue que traînaient sa femme et sa fille, à défaut de l'attelage dévoré par les loups du seigneur, le cerf entendait la trompe de chasse retentir dans les ravines, il ne manquait jamais de fuir vers les fourrés pour éviter la réquisition des piqueurs. Là, tapi comme une bête fauve derrière quelques souches mousseuses, Il voyait passer à cheval le suzerain implacable et taciturne, qui allait chercher au fond des bois une image de guerre, s'entretenir la main à la destruction et cultiver son goût de meurtre. Inquiet, il entendait tout le jour, et souvent jusqu'au milieu de la nuit, ces flottantes rumeurs de la chasse, tantôt lointaines, tantôt rapprochées, et il pouvait calculer quelle était la vigne brisée par les meutes ou la terre sous semence piétinée par les chevaux. Enfin, l'hallali sonnait, il voyait revenir le seigneur sur un coursier noyé d'écume, suivi de chiens au museau encore rougi par le sang de la curée et entouré de piqueurs portant sur les ramées les cadavres des bêtes fauves couronnées de branches de genévrier. Combien de fois alors de muettes malédictions durent-elles s'élever dans les cœurs ulcérés et craintifs. Impuissants à la vengeance, les cerfs la confiaient tout bas au dieu des affligés. Ils se disaient que sa justice infligerait quelque jour pour châtiment à ce maître impitoyable, le plaisir même auquel tout était maintenant à sacrifier. Ils demandaient dans leurs secrètes prières que le veneur maudit fût condamné après sa mort à chasser éternellement en compagnie du démon. Il lui donnait un coursier dont la selle était armée de pointes d'acier, des piqueurs soufflant une haleine de flammes, pour meute des chiens acharnés à sa poursuite et le déchirant comme une proie. De ce souhait au rêve, la transition était facile, et pour le peuple, le rêve est bien vite une réalité. Il crut à la punition parce qu'il l'avait espérée. Il en eut la preuve parce qu'il y croyait. Tout lui devint témoignage. Les murmures inexpliqués de la forêt, les cris des oiseaux de passage, les aboiements des chiens égarés, le galop des chevaux échappés de leur pâture. Grossi par la peur et multiplié par la muse villageoise, ces traditions ne permirent même plus le doute, et l'existence des chasses fantastiques fut prouvée.